journal, Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. La traque aux variants sud-africains du coronavirus, la course de vitesse face à cette nouvelle souche se poursuit dans le Val-de-Marne avec une vaste opération de dépistage qui concerne toute la population et plus seulement les établissements scolaires de la ville. Nous serons dans un instant à Bonneuil-sur-Marne avec Rémi Brancato. La campagne de vaccination a désormais un nouveau conseil. Installation aujourd'hui du collectif de 35 citoyens chargés d'accompagner la vaccination contre le coronavirus. Invitée de ce journal, Marie-Andrée Blanc, présidente de la commission vaccination Covid du Conseil économique, social et environnemental. À l'étranger, en Inde, l'une des plus grandes campagnes au monde de vaccination débute aujourd'hui. 1,3 milliard d'habitants sont concernés. Dans ce journal également, un nouveau président pour la CDU allemande, Armin Laschet, succède à Angela Merkel. Et puis en fin de journal, du rock insurrectionnel avec l'album de Shame, la prescription culture pour ce week-end. La météo, il neige depuis ce matin à Paris, en Ile-de-France et dans 32 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, Secret d'Info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur le malaise chez Biocoop. Plusieurs conflits sociaux ont éclaté ces derniers temps et ils sont révélateurs d'une crise de croissance car son modèle coopératif s'est peu à peu rapproché de celui de la grande distribution.
Jacques Monin, Secret d'Info, à 13h20. France Inter. Inquiétude donc face aux virus variants détectés en France dans plusieurs départements. Dans le Val-de-Marne, des variants britanniques et sud-africains ont été identifiés. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a déclenché une opération de dépistage dans plusieurs départements franciliens. Des centres sont ouverts à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, et à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. C'est là que nous vous retrouvons, Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Une course de vitesse est donc lancée face aux variants sud-africains du virus et le dépistage a lieu près d'un stade de Bonneuil.
Oui, dans les locaux ici du stade Léo Lagrange, déjà plus d'une cinquantaine de personnes ont défilé ce matin, comme Assia, 6 ans, et son papa Rachid.
Lève la tête en haut, lève la tête.
Voilà.
C'est votre fille qui fait le test là devant nous ?
Oui, c'est pour le bien commun. Il y a un cas dans l'école de ma fille, celui qui est mutant. Et il peut vite se propager.
Un porteur de ce variant sud-africain du Covid-19 a en effet été identifié, une personne de retour du Mozambique dans le Val-de-Marne. Et dans l'école Henri Arlès de Bonneuil, c'est un de ces cas contacts qui a été tracé. Résultat, ce test massif organisé en urgence, explique Sylvie Giroudy, la directrice générale adjointe des services de Bonneuil-sur-Marne, même pour les enfants.
C'est vrai que ça nous trouble un petit peu, je vous le cache pas, mais tous les enfants de la maternelle et de l'élémentaire et leurs familles sont appelés à se faire dépister et plus largement l'ensemble des habitants du quartier Liberté, quartier Césaire, s'ils le souhaitent bien sûr.
En tout, 5000 personnes concernées, des cas contacts ont été identifiés dans 5 autres communes d'Île-de-France. Ici, 20 à 30 personnels de l'assistance publique hôpitaux de Paris et de la ville sont mobilisés, explique le premier adjoint Denis Osteroun, qui tente de stopper la progression du variant.
Nous ne savons pas encore les conséquences de ce variant du Covid-19 et qui est le variant sud-africain. On ne va pas se retrouver avec des milliers de variants. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour casser la chaîne de transmission potentielle.
Et pour aller vite, le centre de dépistage reste ouvert jusqu'à 17h aujourd'hui et demain.
Rémi Brancato avec Hélène Langlois, merci. Et ce matin, après la découverte de ces cas de variants du virus, Alain Fischer, chargé de conseiller le gouvernement sur la campagne de vaccination, indique qu'il faudra peut-être un jour vacciner les enfants. Les nouveaux variants pourraient nous conduire à faire évoluer notre stratégie, précise Alain Fischer. Et la stratégie vaccinale sera désormais accompagnée et conseillée par un collectif de 35 citoyens. Ce collectif sera installé aujourd'hui, donnera son avis sur la campagne de vaccination. Marjorie, 45 ans, une Dromoise, a été tirée au sort. Elle fait donc partie de ce collectif. Marjorie habite un petit village, la Motte de Galore, 800 habitants. Une vraie surprise pour cette jeune grand-mère qui prend déjà sa mission très à cœur. Première réunion en visioconférence cet après-midi avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, et les autres membres du collectif. Marjorie avec Mélanie Tournadre de France Bleu Drôme Ardèche.
Il y a du stress, de l'excitation, envie de bien faire parce que j'ai accepté. J'avais envie de vraiment représenter les citoyens de notre ruralité ici en Port-Dromardèche, la meute de Galaure, les questions qu'on se pose dans notre ruralité, ça j'insiste bien, c'est pas les questions de Paris, c'est les questions des ruralités. Pour les personnes qui ont plus de 75 ans, comment ils vont se rendre dans les centres de vaccination? Il y a plein de questions à poser de citoyens lambda. Je suis allée voir des gens, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du vaccin et puis s'ils comptaient se faire vacciner, sinon pourquoi? De quoi ils avaient peur, et puis voilà. Et ça reste dans mon bloc-notes. J'ai acheté un ordinateur. Non, je suis vraiment motivée à faire de bien ce peu pour ma région. Ça me tient particulièrement à cœur.
Voilà Marjorie, très motivée et membre du collectif Citoyen. Invitée de ce journal, Marie-Andrée Blanc, présidente de la commission temporaire vaccination Covid du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Madame Blanc.
Bonjour.
Alors ce collectif citoyen dont on vient d'entendre une membre, Marjorie, va travailler sous l'égide du CESE. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce collectif, 35 personnes représentatives de la société?
Oui, alors si vous le permettez, je voudrais aussi remettre un petit peu d'autres informations, à savoir qu'il y a trois piliers qui vont travailler sur cette campagne, sur l'accompagnement de cette campagne vaccinale. Tout d'abord, il y a une commission temporaire au sein du Conseil économique qui regroupe, comme vous l'avez dit, des représentants de chacun des groupes et qui portera à l'exécutif des observations et des recommandations. Et puis, nous aurons, oui, tout à fait, un collectif de 35 citoyens qui formuleront des observations et qui s'exprimera sur les questionnements, les peurs, les craintes, les résistances, les questions éthiques. Et puis, troisième pilier, après cette commission temporaire, après ce collectif, eh bien, nous avons également une plateforme qui vient d'être lancée, qui s'appelle Vaccination Covid, lecese.fr, et qui, évidemment, regroupera là aussi tous les questionnements que tous nos citoyens, tous nos concitoyens pourront se poser. Donc voilà, trois piliers, une commission temporaire, le collectif citoyen, et une plateforme.
Alors la plateforme, justement, je suis allé voir ce matin, sachant que vous étiez invité du journal Marie-Andrée Blanc. Donc elle est ouverte, elle fonctionne. Il y a déjà des contributions sur cette plateforme. Mais je reviens à ma première question. Donc 35 personnes qui représentent la société. J'ai vu que dans ces 35 personnes, il y en avait à peu près 17% qui n'étaient pas très à l'aise avec la vaccination, qui n'étaient pas prêtes à se faire vacciner. Est-ce que cela vous paraît cohérent pour ce conseil dont le but est de dissiper les réticences vis-à-vis du vaccin?
Alors écoutez, je pense qu'il faut aussi tenir compte effectivement de ce qui se passe autour de nous. On a des personnes qui sont pour le vaccin, on en a d'autres qui sont contre et on en a une grande partie qui sont indécises. Donc à mon avis, il convient évidemment de travailler avec ce groupe citoyen dont on ne connaîtra absolument pas, nous, conseillers du CESE, s'ils sont pour, s'ils sont contre ou si ce sont des indécis. Nous n'avons pas l'information.
Ces informations vous sont cachées.
Tout à fait. Nous n'en avons pas connaissance. Ce que je peux vous dire sur ce collectif citoyen, c'est que tous les niveaux d'études, toutes les régions, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les types d'habitats sont représentés. Nous les accueillons cet après-midi, alors non pas en présentiel du fait de la pandémie, mais en visio, évidemment. Et bien sûr, le président Bernasconi les accueillera, moi-même, et bien sûr, nous aurons également le professeur Fischer qui sera là pour aussi les accueillir.
Alors ce conseil a été très critiqué par des responsables politiques de l'opposition. On a parlé de gadgets, de comité Théodule pour les formules. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont critiqué ce collectif?
Eh bien écoutez, je pense que le collectif doit amener aussi des observations par des gens de terrain. J'entendais précédemment la prise de parole de la personne qui vient de la Drôme, qui entend porter la voix de la ruralité, etc. Et je pense que dans ce collectif, toutes ces sensibilités sont représentées. Mais c'est ce que l'on appelle la participation citoyenne. Donc, quelque part, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, que nous, le Conseil économique, nous sommes la troisième assemblée de la République, nous sommes la société civile organisée, eh bien, nous puissions aussi nous appuyer sur des personnes qui viennent, qui sont de toutes les régions, de tous les âges, etc. Pour une question d'âge, les personnes qui constituent ce collectif ont entre 18 et pratiquement 80 ans. Donc, vous voyez, on a quand même un panel assez large Et comme je vous le disais aussi, toutes les catégories socio-professionnelles, évidemment les niveaux d'études, etc. Et il y a eu un panel très large.
Très représentatif.
Donc voilà, un collectif qui est représentatif, mais n'oublions pas que le Conseil économique représente la société civile organisée.
Merci Marie-André Blanc, présidente de la commission temporaire vaccination Covid du Conseil économique, social et environnemental. Merci madame. Le jour le plus court, eh bien c'est aujourd'hui, avec le couvre-feu pour tous dans le monde, pour tout le monde, à partir de 18h, en tout cas en France, une mesure qui va par exemple chambouler les transports en commun, notamment en Île-de-France. Tous ceux qui travaillent ou vont au lycée devront partir plus tôt que d'habitude pour éviter la saturation des réseaux et faciliter la circulation. La SNCF et la RATP vont s'adapter. Elles vont avancer l'heure de pointe à 15h30 avec plus de trains, plus de bus et plus de métro. Grégoire de Lasteyrie, délégué spécial aux nouvelles mobilités pour la région Île-de-France avec Rebecca Alexis Langard.
L'avancement du couvre-feu à 18h va pousser les franciliens à partir sans doute plus tôt du travail ou de leur lieu d'études. L'heure de pointe va donc être avancée dans les transports en commun. Habituellement, elle commence à 16h30. Donc là, on va l'avancer évidemment plus tôt que 16h30, notamment en renforçant probablement jusqu'à 30% selon les différents besoins sur les différentes lignes. Probablement, on avancera l'heure de pointe jusqu'à 19h seulement. Néanmoins, on regardera de manière précise dans les prochains jours comment cela se décline ligne par ligne, mode de transport par mode de transport, pour faire vraiment des ajustements de manière les plus précises possibles et éviter toute surcharge du réseau, tout en préservant bien évidemment la desserte des hôpitaux.
Grégoire de Lasteyrie, délégué aux nouvelles mobilités en Île-de-France. À l'étranger, en Inde, l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre le coronavirus débute aujourd'hui. 1,3 milliard d'habitants devront être vaccinés dans un premier temps. L'Inde prévoit de vacciner 300 millions de personnes d'ici juillet. Alors, deux vaccins ont été autorisés, mais dans des conditions opaques. Et certains Indiens hésitent à se faire vacciner dès le début de la campagne. Reportage à New Delhi, Sébastien Farcy.
Le gouvernement a autorisé deux vaccins, celui d'Oxford AstraZeneca et celui indien de Bharat Biotech, mais il n'a publié aucune information scientifique sur leurs essais cliniques. Plus grave, le vaccin indien a lui été approuvé alors que les tests de phase 3, qui sont censés déterminer son efficacité, n'ont même pas été terminés. Shiv Mukherjee, âgé de 74 ans, pourrait se faire vacciner dans les semaines qui viennent, mais il n'a pas confiance.
The protocols have been not just hurried through, but corners have been cut.
Le protocole a été piétiné et des compromis dangereux ont été commis. C'est typique de ce gouvernement autoritaire qui fait passer ses décisions en force sans communiquer de manière transparente ni suivre les procédures. Ceci dit, je me ferai vacciner. Le vaccin d'Oxford AstraZeneca est probablement un peu plus crédible.
Et si vous avez le choix entre le prendre maintenant et dans 3 mois?
Je le prendrai certainement dans 3 ou 4 mois.
Les patients ne devraient cependant pas pouvoir choisir quel vaccin ils recevront. Le gouvernement a déjà acheté 5,5 millions de doses du vaccin indien et il affirme que les essais cliniques continueront sur toute la population cette fois. Une pratique qui, selon les spécialistes, n'est ni éthique ni scientifique. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Il va falloir s'habituer à prononcer son nom à la place de celui d'Angela Merkel. Armin Laschet est donc le nouveau président des chrétiens démocrates de la CDU. Armin Laschet conduira la droite allemande aux législatives de septembre avec l'espoir de devenir chancelier. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous.
Correspondant de France Inter à Berlin. Alors Armin Laschet remporte donc ce scrutin. Qu'est-ce que cela signifie Ludovic pour la CDU et pour l'Allemagne ?
Ça veut dire que le parti s'est choisi un candidat d'équilibre, plus au centre, un candidat rassembleur, avec un résultat serré tout de même, 521 voix pour Laschet contre 466 pour Friedrich Merz. Il a donc été préféré, cette personnalité moins clivante. Armin Laschet, bientôt 60 ans dans un mois, est un homme politique très installé ici, un baron régional puisqu'il dirige la grande Rhénanie du Nord, Westphalie, le land le plus peuplé du pays. Et ce matin, son discours de candidature s'est voulu grave, bien sûr, avec la pandémie, et puis dans un pays marqué depuis 2 ans, souvent brutalement, par l'extrémisme et la radicalité. Armin Laschet, c'est aussi le même type de discours que la chancelière.
Wir lassen uns unser Land von Rechtsterroristen.
On ne laissera pas l'extrémisme de droite casser notre pays. Certains voudraient polariser, je leur dis non. Nous devons toujours parler clairement. On doit pouvoir intégrer tout le monde et faire société ensemble. C'est un travail difficile, mais à la fin, la population attend de nous que nous cherchions des compromis et trouvions des solutions.
von uns erwarten.
Armin Laschet, le nouveau président de la CDU. Mais attention, ce poste n'est pas nécessairement un tremplin pour la chancellerie. Ce congrès l'a acté très clairement et reporté le choix du candidat de l'Union en mars ou avril. C'est donc une deuxième bataille qui s'ouvre pour espérer ce coup-ci prendre le fauteuil qu'Angela Merkel garde bien au chaud depuis plus de 15 ans.
Ludovic Piétenu à Berlin, merci. Trouver un accord sur l'islam de France, Gérald Darmanin réunit aujourd'hui les trois principaux courants du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Le ministre de l'Intérieur veut tenter d'apaiser les divisions internes autour du projet de réforme de l'islam de France. Une réforme en marge du projet de loi contre le séparatisme. Et le texte, lui, arrive lundi en commission à l'Assemblée nationale. Près de 1700 amendements ont été déposés sur ce projet de loi confortant le respect des principes de la République, dont un amendement défendu notamment par Aurore Berger concernant l'interdiction du voile pour les petites filles. Aurore Berger, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche, était l'invitée ce matin du 6-9 d'Éric Delvaux et Patricia Martin.
On considère qu'en République, des enfants de 5 ans ou de 6 ans n'ont pas forcément leur libre arbitre, ne sont pas éclairés en termes de consentement pour dire si oui ou non ils veulent porter des signes religieux ostensibles. C'est uniquement cette question-là qui est posée. C'est la question du libre arbitre de l'enfant.
À partir de quel âge il peut être consentant
C'est un débat qu'on a. Vous voyez bien les débats qu'on a aujourd'hui sur d'autres sujets extrêmement graves, sur la question du consentement des mineurs et à quel âge un mineur peut être libre ou non pour dire oui ou pour manifester son désaccord. Certains disent que c'est la majorité sexuelle, d'autres disent que c'est tout simplement la minorité ou la majorité. Donc on verra la semaine prochaine dans le débat.
Aurore Berger, ce matin avec Éric Delvaux et Patricia Martin. Renault mise tout sur l'électrique dans son nouveau plan stratégique Renaulution présenté cette semaine. On ignorait encore combien de modèles seraient concernés et proposés et à quel prix. Eh bien Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, a donné la réponse ce matin à Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho.
Il s'agit de remettre en France une capacité de production significative, en particulier dans le nord du pays, et en particulier de véhicules électriques. Nous avons l'ambition de produire près de 400 000 voitures électriques en France d'ici quelques années, et on a bien l'intention d'y arriver. Ces véhicules dont je parle doivent être abordables. Il faut pouvoir vendre des voitures à 20 000 euros ou moins sans les aides. Pour arriver à ça, on en est encore un peu loin. Vous savez qu'un véhicule électrique, c'est très cher et qu'aujourd'hui, sans les aides des États, il y aurait également de difficultés pour les mettre dans le marché.
Jean-Dominique Sénard avec Alexandra Ben Saïd. La prescription culture pour ce week-end de couvre-feu et enneigé, avec du rock insurrectionnel, avec la jeune génération du rock anglais. Ils avaient fait sensation lors de la parution de leur premier album. Le groupe s'appelle Shame. Et leur deuxième album vient de sortir, un disque enregistré en France avant la pandémie, plus élaboré et apaisé, Mathieu Culeron.
Épuisé, claqué par des tournées sans fin, Shame a pris le temps de la réflexion et du silence pour ce nouveau disque. L'énergie punk est toujours là, mais plus maîtrisée, mieux canalisée. Terminé les peintres renversés sur la tête en plein concert, l'heure est à l'introspection. Le groupe anglais s'est installé en France pour enregistrer ce nouveau disque avec James Ford, le producteur des Arctic Monkeys. C'est dans ce manoir de banlieue parisienne que les cinq rockers ont posé leurs valises et ont ouvert de nouvelles portes dans leurs influences, des Talking Heads à Tok Tok. Le chanteur Charlie Steen parle de crise d'identité, de rêves inattendus et de la difficulté de gérer la réalité. Une sensation décrite avant même la pandémie, plus une réaction à son mode de vie urgent, destructeur. Drunk Tongue Pink, deuxième album de Shame, est un disque plus complexe, moins évident, des chansons à digérer lentement. Bref, un sacré virage pour ceux dont l'urgence était l'énergie fondatrice du groupe.
Voilà, Shame, découverte avec, pour ce qui me concerne en tout cas, avec Mathieu Culeron. La neige et le verglas sur une bonne partie du pays depuis ce matin. 32 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. En Ile-de-France, 1300 km de routes ont été salées. On ne signale pas pour l'instant de problèmes particuliers sur les routes. En Alsace, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. Après l'épisode neigeux de ces derniers jours, c'est le cas à Lixdorf, dans le Jura alsacien, non loin de la frontière suisse, un village coupé du monde, mais les habitants ont pris leur mal en patience. Témoignage recueilli par Patrick Janton de France Bleu Alsace.
Pas de réseau, et puis bon, ça nous fait du bien, une bonne coupure avec le reste. Ça nous change les habitudes, ça nous fait retrouver un peu les choses vraies, sortir, regarder dehors. Bah, hier soir, c'était à la bougie, ouais, dîner aux chandelles. Et puis ce matin, c'était réveil, on pensait que ça allait reprendre, mais bon, du coup, non. Donc on attend. Puis bon, après, quand on voit que ça arrive des fois partout en France, ça peut être plus longtemps que ça, donc bon. On apprend à vivre avec ce qu'on a, et c'est pas plus mal.
C'était dans la soirée. Et ce matin-là, il avait battu, hein, jusqu'à présent.
Ce matin, j'avais une bougie
et une lampe à bouche. Parce que il faut que je lise mon journal le matin. Et c'est le premier truc que je fais, vous voyez. Et mon sut au cul. Une bougie et une lampe de bouche, voilà.
Voilà, une lampe de poche pour lire, pour faire son sudoku et lire le journal. C'est important. Le temps, donc, pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous, aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Humidité et froid ne font pas bon ménage. Les pluies qui ont débordé la Bretagne en début de journée rencontrent de l'air froid en avançant vers l'intérieur. Ce matin, neige et pluie verglaçante ont survolé le Val-de-Loire et la Normandie. À la mi-journée, ces précipitations hivernales affectent les Hauts-de-France, le centre et l'Île-de-France, avant de gagner ce soir vers le Massif central et du quart nord-est à Rhône-Alpes. Sur la carte de vigilance, on trouve actuellement une trentaine de départements en orange, neige et verglas. Notez qu'après le passage de ces neiges et de ces pluies verglaçantes, le redoux sera très progressif par l'ouest, n'atteignant qu'en cours de nuit prochaine les frontières de l'est et le sud du Massif central. Quant aux régions méridionales, elles vont conserver un temps sec, mais souvent voilé, avec un vent sensible dans le couloir du Mistral et de la Tramontane.
Jean-Michel Golinski de Météo France.